Section 11. Les résultats du ministère de la bienfaisance. Le monde surveille et observe ceux qui prétendent croire aux vérités spéciales pour notre époque. Il les observe pour voir si leur vie et leur conduite représentent le Christ. En s'adonnant humblement et patiemment à l'œuvre qui consiste à faire du bien à tous, les enfants de Dieu exerceront une influence qui permettra de reconnaître, dans chaque ville et dans chaque village, les foyers dans lesquels la vérité a pénétré. Si tous ceux qui connaissent la vérité veulent bien saisir les occasions qui se présentent à eux d'accomplir, jour après jour, de petits actes d'amour, ils seront pour leurs voisins une représentation du Christ, et l'Évangile se révélera comme une puissance agissante et non comme un assemblage de fables habilement conçues ou comme de vaines spéculations. Il deviendra pour eux une réalité et ne sera plus envisagé comme le résultat de l'imagination ou de l'enthousiasme. Et ceci aura plus d'importance que tous les sermons, professions de foi et credo. Chapitre 40. L'influence du ministère de la bienfaisance. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile du Christ et de la libéralité de vos dons envers eux tous. Ils prient pour vous, parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. 2 Corinthiens 9, versets 11 à 14. Ce que le monde voit, que le monde voit que nous ne sommes pas étroits ni exclusifs au point de vue religieux, mais généreux et désireux de faire part de nos biens et de nos privilèges grâce à l'influence de la vérité. Qu'ils se rendent compte que la religion que nous professons ne ferme pas les avenues de notre âme, nous rendant antipathiques et exigeants. Que tous ceux qui prétendent avoir trouvé le Christ se dévouent comme il le fit pour l'humanité et cultivent un esprit de sage bienveillance. Nous verrons alors bien des âmes suivre la lumière qui se dégage de notre doctrine et de notre exemple. Le secours chrétien est plus efficace que la prédication. Les bonnes œuvres des enfants de Dieu sont la prédication la plus efficace que les incroyants puissent entendre. Accomplissons une œuvre secourable. Donnons à manger à ceux qui ont faim. Vêtons ceux qui sont nus. Cela aura une influence beaucoup plus grande que les sermons. Nos idées sur la bienfaisance chrétienne doivent être reconsidérées si nous voulons qu'elles soient élargies. Un travail pratique fera plus que les sermons. Influence de la vie du service chrétien. Notre vie chrétienne témoignera que nous sommes gouvernés par d'autres lois que celles du monde, des lois d'un ordre plus élevé. La volonté de Dieu, notre Créateur, est de rendre manifeste en nous non seulement le nom que nous portons, mais notre vie de renoncement. Nous devons donner la preuve que nous sommes influencés et dirigés par des principes désintéressés. Tous nos objectifs et notre conduite doivent être distincts de l'égoïsme du monde. L'unité avec le Christ rend les hommes capables d'exercer une influence beaucoup plus grande que celle des hommes illustres de ce monde. Alors qu'ils suivent l'exemple du Christ, ils ont, avec sa grâce, la puissance de faire du bien à l'Église et à la société. L'influence qu'ils exercent est exactement proportionnée à la précision de la ligne de démarcation qui les sépare des principes du monde. De même que l'union fait la force, la source de toute puissance, de toute bonté, miséricorde et amour, prend l'être humain limité et se l'associe dans le but de communiquer sa divine puissance et répandre son influence auprès et au loin. Quand on est uni au Christ, participant de sa nature divine, les intérêts s'identifient avec ceux de l'humanité souffrante. En regardant à la croix du calvaire, chaque fibre de notre cœur et de notre cerveau tressaillira de sympathie pour la misère humaine dans toutes les parties du monde. Ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ comprendront l'horreur du péché et la divine compassion de Jésus dans son sacrifice infini pour l'homme tombé. La communion avec le Sauveur donne la tendresse du cœur. Celui qui la connaît manifestera la sympathie dans le regard, dans le ton de la voix. Ses efforts seront caractérisés par une tendre sollicitude, l'amour et l'énergie qui lui permettront de gagner des âmes au Christ. Influence bénie des actes de bienfaisance, si les mondains avaient devant eux l'exemple que Dieu demande aux croyants de montrer, ils seraient amenés à faire les œuvres du Christ. Si Jésus était encore ici-bas, crucifié parmi nous, Si nous voyons la croix du calvaire à la lumière de la parole de Dieu, nous voudrions être un avec lui comme il était un avec le Père. Bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui, notre foi serait la foi qui est agissante par l'amour de Dieu et de nos semblables, et purifierait l'âme. Si le peuple de Dieu possédait cette foi, beaucoup plus de gens croiraient en Christ. Une influence bénie s'exercerait par des actes de bienfaisance de la part des serviteurs de Dieu, et leur lumière resplendirait dans le monde. Plus fort que l'épée des cours de justice, l'amour de Dieu dans le cœur, manifesté par un travail missionnaire véritable et désintéressé, sera plus efficace que l'épée des cours de justice ne l'est envers les malfaiteurs. Le missionnaire actif, le cœur rempli de l'amour de Dieu, peut renverser les barrières. Le missionnaire médical, dans l'œuvre qui lui est assignée, peut non seulement soulager les maladies du corps, mais, par l'amour et la grâce du Christ, guérir aussi les maladies de l'âme, la lèpre du péché. Le cœur humain s'endurcit souvent sous les reproches, mais il ne peut résister à l'amour qui lui est témoigné au nom du Christ. L'amour dissipe les préjugés. La gloire du ciel consiste à relever ceux qui sont tombés, à réconforter ceux qui sont dans la détresse. Quel que soit le cœur dans lequel le Christ habite, il se révélera toujours de la même manière. Partout où elle se manifeste, la religion du Sauveur fera du bien. Où qu'elle opère, elle produira la lumière. Quelle que puisse être la religion d'un homme, son cri de détresse ne doit pas rester sans réponse. Là où règne l'amertume à cause des divergences religieuses, on peut faire beaucoup de bien par le soulagement des souffrances physiques. La bienfaisance fait tomber les préjugés et amène les âmes à Dieu. Il faut désarmer les préjugés à l'approche du temps de détresse. Le peuple de Dieu devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour gagner les bonnes grâces du public, pour désarmer les préjugés. L'œuvre médicale missionnaire est un bon moyen pour vaincre les préjugés et gagner les esprits. Il nous faut présenter l'évangile médical missionnaire pour guérir ceux dont l'âme est atteinte de la maladie du péché en leur annonçant le message du salut. Cette œuvre renversera les préjugés mieux que toute autre chose. Témoin de la vertu, une vie désintéressée, les bonnes œuvres du peuple de Dieu ont une bien plus grande influence que les paroles. Ceux qui voient des vies vertueuses et désintéressées sont amenés à désirer posséder cette même justice qui produit de si bons fruits. Les actes sont plus importants que les credos. La vérité divine n'a que peu d'influence sur le monde, alors qu'elle devrait en exercer une grande. Ils sont nombreux ceux qui font une simple profession de religion. Mais la seule profession n'a que peu de poids. On peut se dire disciple du Christ et croire à toutes les vérités de la parole de Dieu, mais si nos actes journaliers ne sont pas en accord avec nos croyances, quel bien en retireront nos voisins? Si nous ne sommes pas des chrétiens dignes de ce nom, notre piété aurait beau être aussi élevée que le ciel, elle ne saurait nous assurer la vie éternelle ou celle de nos semblables. Un bon exemple fera plus de bien au monde que toutes nos prétentions. L'influence d'un foyer où règne l'amour. Ceux qui cultivent l'amour au foyer formeront un caractère selon la ressemblance du Christ et exerceront une heureuse influence autour du cercle familial. Ils seront en bénédiction aux autres par leur bonté, leurs bonnes paroles, leur sympathie chrétienne et leurs actes de bienfaisance. Ils seront prompts à discerner ceux qui manquent d'affection. Ils feront une fête aux nécessiteux et aux affligés. Ceux qui possèdent un discernement céleste, qui jettent un tendre regard sur chaque membre de la famille et font tous leurs devoirs, se qualifient eux-mêmes pour accomplir une œuvre qui fera du bien à d'autres foyers en leur enseignant par le précepte et par l'exemple ce qui peut rendre une demeure heureuse. Exemple d'influence. Par leur sagesse et leur justice, par la pureté et la bienveillance de leur vie quotidienne, par leur dévouement aux intérêts du peuple et d'un peuple idolâtre, Joseph et Daniel se montrèrent fidèles aux principes qui leur avaient été inculqués dans leur enfance, fidèles à celui dont ils étaient les représentants. Ces hommes furent honorés de toute l'Égypte et de tout l'Empire babylonien. En eux, un peuple païen et toutes les nations avec lesquelles ils entretenaient des relations contemplèrent un exemple de la bonté et de la bienveillance de Dieu et de l'amour du Christ. Quelle vie admirable que celle de ces nobles Hébreux! Alors qu'ils quittaient les lieux où s'était écoulée leur enfance, comme ils songeaient peu à leur haute destinée. Fermes et fidèles, ils se soumirent à la direction divine afin que par eux le Seigneur pût réaliser ses plans. Dieu désire dévoiler par la jeunesse et les enfants d'aujourd'hui les mêmes vérités que par ses hommes. L'histoire de Joseph et de Daniel illustre ce que Dieu peut faire pour ceux qui se soumettent à lui et cherchent de tout leur cœur à accomplir sa volonté. Aujourd'hui, le monde a surtout besoin d'hommes, non pas d'hommes qui puissent s'acheter ou se vendre, mais d'hommes qui soient fidèles et honnêtes jusque dans l'intimité de leur âme, d'hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom et dont la conscience est aussi fidèle au devoir que la boussole l'est au pôle, d'hommes qui tiendraient pour la justice et la vérité même si l'univers s'effondrait. Chapitre 41. Bénédiction reflétée. La loi de l'action et de la réaction. La sagesse divine a établi, dans le plan du salut, la loi de l'action et de la réaction, de sorte que l'œuvre de la bienfaisance dans toutes ses ramifications est doublement bénie. Celui qui donne aux nécessiteux leur est en bénédiction, et il est béni lui-même dans une plus grande mesure encore. Dieu aurait pu atteindre son but en sauvant les pécheurs sans l'aide des hommes, mais il savait que ceux-ci ne pouvaient être heureux sans participer à la grande œuvre qui les amènerait à cultiver le renoncement et l'amour du prochain. Pour que l'homme ne soit pas frustré des fruits bénis de la charité, notre Rédempteur décida de l'associer à son œuvre. C'est lorsque nous nous donnons à Dieu pour le service de l'humanité qu'à son tour il se donne à nous. Nul ne peut ouvrir son cœur au Seigneur et lui consacrer sa vie pour transmettre au monde les bénédictions qui lui sont destinées sans en être lui-même enrichi. Aider les autres à former un caractère. C'est en accomplissant les œuvres du Christ, en travaillant comme lui pour ceux qui souffrent ou qui sont affligés, que nous développons un caractère chrétien. C'est pour notre bien que Dieu nous a appelés à pratiquer le renoncement pour l'amour du Christ, à porter la croix, à travailler et à nous sacrifier pour sauver ce qui était perdu. Le Seigneur raffine, épure les plus vils matériaux, afin que les précieux traits de caractère puissent apparaître chez le croyant. Par la grâce du Christ, nos efforts pour faire du bien aux autres sont non seulement le moyen de nous faire croître dans la grâce, mais ils contribuent à notre bonheur éternel. À ceux qui ont été ouvriers avec le Christ, il sera dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » L'esprit désintéressé apporte au caractère une profondeur, une stabilité et une beauté qui reflètent celle du Christ et communiquent la paix et le bonheur à son possesseur. La source du vrai bonheur. En étant une source de bénédiction, nous éprouverons une douce satisfaction et une paix intérieure qui seront notre meilleure récompense. Poussés par ce grand et noble désir d'être utile à nos semblables, nous trouverons le vrai bonheur dans l'accomplissement de nos nombreuses tâches quotidiennes. On ne trouve le vrai bonheur qu'en étant bon et en faisant du bien. Notre bonheur sera fonction de nos œuvres désintéressées, inspirées par l'amour divin, car dans le plan du salut, Dieu a établi la loi de l'action et de la réaction. L'œuvre de la bienfaisance procure la santé. Ceux qui font une démonstration pratique de la bienfaisance par leur sympathie à l'égard des pauvres, de ceux qui souffrent et des malheureux, soulagent non seulement la souffrance, mais contribuent dans une grande mesure à leur propre bonheur et à la santé de leur âme et de leur corps. Ésaïe a clairement décrit l'œuvre que Dieu accepte de son peuple et qu'il bénit. J'attire votre attention sur les résultats certains qui découlent de l'exhortation du Seigneur en ce qui concerne le soin des affligés. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. N'est-ce pas ce que nous désirons tous? Il y a santé et paix pour celui qui accomplit la volonté de son Père céleste. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. Un remède contre la maladie. Certains aimeraient faire quelque chose, mais ils prétendent que leur santé ne le leur permet pas. Ils se sont repliés sur eux-mêmes, se cantonnant dans leurs propres sentiments. Ils ne parlent que de leurs souffrances, de leurs épreuves et de leurs afflictions, de sorte qu'elles constituent pour eux leur vérité présente. Ils ne peuvent penser qu'à leur propre personne, même si tant d'autres ont besoin de sympathie et d'assistance. Vous qui ne jouissez que d'une petite santé, il existe pour vous un remède. Si vous procurez des vêtements à ceux qui en manquent, si vous recueillez celui qui est sans asile, si vous donnez du pain à celui qui a faim, alors votre lumière poindra comme l'aurore et votre guérison germera promptement. Faire le bien est un excellent remède contre la maladie. Ceux qui se mettent à l'œuvre sont invités à demander l'aide du Seigneur, qu'il a promis lui-même de leur accorder. Leur âme altérée deviendra alors comme un jardin arrosé dont les eaux ne tarissent pas. C'est le remède que le Christ a prescrit pour celui dont le cœur défaille, qui doute et tremble. Que ceux qui sont dans le deuil, qui marchent en pleurant devant le Seigneur, se lèvent et viennent en aide à celui qui est dans le besoin. La sympathie fait un grand bien. Lorsque la sympathie humaine se conjugue avec l'amour et la bienfaisance, qu'elle est sanctifiée par l'Esprit de Jésus, elle constitue un élément qui peut faire beaucoup de bien. Ceux qui cultivent la bienfaisance ne font pas seulement une bonne œuvre en s'occupant des autres, mais ils en bénéficient eux-mêmes en ouvrant leur cœur à la douce influence de la véritable bonté. Tout rayon de lumière qui brille sur les autres se réfléchira sur nos propres cœurs. Toute parole de bonté et de sympathie adressée à un affligé, tout acte accompli pour soulager l'opprimé, et tout don destiné à faire face aux besoins de nos semblables, donné ou fait en vue de la gloire de Dieu, se traduira en bénédiction pour le donateur. Ceux qui se conduisent ainsi obéissent à la loi du ciel et recevront l'approbation de Dieu. Jésus connaissait l'influence de la bienfaisance sur le cœur et la vie du bienfaiteur, et il cherchait à impressionner l'esprit de ses disciples par les bienfaits qui dérivaient de l'exercice de cette vertu. Il leur disait « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Par la parabole du bon samaritain, il fit comprendre dans quel esprit nous devons exercer la bienveillance envers nos amis, nos voisins et les étrangers. En sauvant son prochain, il se sauva lui-même. Une église qui travaille est une église qui grandit. Ses membres trouvent un stimulant et un tonique à aider les autres. J'ai lu l'histoire d'un homme qui, étant en voyage un jour d'hiver, alors que la neige tombait en rafale, fut engourdi par le froid qui, presque imperceptiblement, paralysait ses centres vitaux. Il était à demi-mort et sur le point d'abandonner la lutte, lorsqu'il entendit les gémissements d'un autre voyageur qui se trouvait dans la même situation que lui. Il se mit à frictionner les membres glacés de cet infortuné et, après un effort considérable, essaya de le remettre sur pied. Mais l'homme ne pouvait se tenir debout. Aussi le prit-il dans ses bras et ils sortirent tous deux de cette tempête dont il avait pensé ne pouvoir se tirer lui-même. Lorsqu'il eut transporté son compagnon de voyage en lieu sûr, il comprit brusquement qu'en sauvant cet homme, il s'était sauvé lui-même. Ses efforts pour en aider un autre avaient fait circuler le sang qui se glaçait dans ses veines, et une chaleur bienfaisante avait réchauffé les extrémités engourdies de son corps. Cette leçon, qui nous fait comprendre qu'en aidant les autres, on s'aide soi-même, doit être enseigné avec beaucoup de puissance, par le précepte et par l'exemple, aux personnes nouvellement converties, afin que, dans leur expérience chrétienne, elles aient les meilleurs résultats possibles. Que ceux qui se découragent facilement, ceux qui sont disposés à croire que le chemin de la vie éternelle est pénible et difficile, se mettent à l'œuvre pour aider les autres. Leurs efforts, unis à la prière, feront battre leur propre cœur par l'influence vivifiante de la grâce de Dieu, et ils brûleront d'une divine ferveur. Toute leur vie chrétienne deviendra une réalité, et ils seront plus ardents, plus disposés à la prière. L'Église est bénie. Que, pendant la semaine, les membres d'Église fassent leur part fidèlement, et que, le sabbat, ils racontent leurs expériences. La réunion sera alors comme de la nourriture au temps convenable, apportant à tous une vie et une vigueur nouvelles. Quand le peuple de Dieu verra combien il a besoin de travailler comme le Christ l'a fait à la conversion des pécheurs, les témoignages du sabbat seront remplis de puissance. Avec joie, on dira combien est précieuse l'expérience acquise en travaillant pour les autres. Nos propres grâces exercées. Si tout allait bien dans le monde, la patience, la longanimité, la gentillesse, la douceur ne seraient pas nécessaires. Plus on exercera ces grâces, plus elles augmenteront et se fortifieront. Plus nous fournirons de pain à celui qui a faim, plus souvent nous vêtirons celui qui est nu, plus nous visiterons les malades et soulagerons l'orphelin et la veuve dans leurs afflictions, plus nous profiterons des bénédictions divines. Pourquoi les bénédictions ne sont pas accordées ? La bénédiction de Dieu ne peut être accordée à ceux qui ne font rien dans sa vigne. Les soi-disant chrétiens qui ne sont pas actifs neutralisent les efforts des bons ouvriers par leur influence et leur exemple. Les grandes vérités qu'ils professent croire sont pour eux inconsistantes et ne leur profitent pas. Ils représentent mal le caractère du Christ. Comment le Seigneur pourrait-il envoyer les ondées de la grâce sur les églises composées en grande partie de cette sorte de membres ? Ils ne s'occupent en aucune manière de l'œuvre de Dieu. Comment le Maître pourrait-il leur dire « Cela va bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître », alors qu'ils n'ont été ni bons ni fidèles ? Dieu ne saurait parler faussement. La puissance de la grâce divine ne peut être donnée dans une grande mesure aux églises. Dieu déshonorerait son glorieux caractère s'il la répandait sur les gens qui ne consentent pas à porter le joug du Christ, à se charger de ses fardeaux, à renoncer à eux-mêmes. À cause de leur nonchalance, ils entravent ceux qui voudraient se mettre à l'œuvre. Devenir un canal de bonnes œuvres. Si Dieu, le Christ et les anges se réjouissent quand un seul pécheur se repent, l'homme ne devrait-il pas manifester le même esprit et travailler pour le temps et pour l'éternité, en faisant des efforts persévérants pour sauver, non seulement son âme, mais celle des autres. Si vous œuvrez dans la bonne direction, de tout votre cœur, en saisissant toutes les occasions qui se présentent à vous, alors vous deviendrez graduellement un chrétien parfait. Le cœur ne sera pas desséché et insensible. La vie spirituelle ne sera pas rabougrie. Le cœur portera l'empreinte de l'image divine, car il sera en communion avec Dieu. La vie entière deviendra un canal d'amour et de sympathie envers l'humanité. Le moi sera oublié, et les voix de ces chrétiens seront affermies en Dieu. En arrosant ses semblables, on est arrosé soi-même. L'eau qui coule de l'âme provient d'une source jaillissante et se répand sur les autres sous forme de bonnes œuvres, d'efforts fervents et désintéressés pour leur salut. Pour être un arbre fécond, l'homme doit recevoir sa substance de la source de la vie et être en harmonie avec le Créateur. La raison de la stérilité. Aucun membre de nos églises ne devrait être stérile, improductif. Quelques-uns de nos frères et de nos sœurs sont en danger de mort spirituelle, même s'ils entendent continuellement la vérité présentée par nos pasteurs, car ils négligent de faire part de ce qu'ils ont entendu. Dieu exige de chacun de ses économes qu'il emploie les talents qu'il lui a confiés. Il nous octroie ses dons pour que nous puissions librement en faire part à d'autres. Il inonde le cœur de la lumière de sa présence afin que nous puissions révéler le Christ à nos semblables. Comment ceux qui se croisent les mains, qui se contentent de ne rien faire, peuvent-ils s'attendre que Dieu continue à pourvoir à leurs besoins ? Les membres de toutes nos églises devraient travailler comme ceux qui sont tenus de rendre des comptes. Il en va de notre destinée. C'est l'œuvre que nous faisons ou que nous ne faisons pas qui décidera de notre destinée. Dieu exige que nous profitions de toutes les occasions qui nous sont offertes. Les négliger serait mettre en péril notre croissance spirituelle. Celui qui vit pour lui-même n'est pas chrétien. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Qu'avons-nous fait dans tous ces cas? Que de chrétiens ont fermé leurs yeux et leurs portes à ceux qui les sollicitaient, de peur d'être amenés à accomplir une œuvre de bonté et de charité. L'œuvre du Christ ne cessera jamais. Son tendre amour et sa bonté sont inépuisables. Sa miséricorde s'étend sur tous les enfants des hommes. Le Seigneur Jésus veut que vous soyez bénis en vous occupant de ceux qui sont dans le besoin et de ceux qui souffrent. Il a fait des hommes ses associés. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Le Christ ne nous a-t-il pas enseigné par le précepte et par l'exemple ce que nous devions faire? Nous devons travailler, animés par son esprit, en regardant à la croix, prêts, s'il nous le demande, à renoncer à tout par amour pour lui. Celui qui vit pour lui-même n'est pas chrétien. Il n'a pas été créé une seconde fois en Jésus-Christ. Le chrétien a le sentiment qu'aucun autre être dans l'univers ne possède les mêmes droits que Jésus à son égard. Il a été racheté au prix infini du sang de l'agneau. Il doit se consacrer sans réserve au Christ. Ses pensées, ses paroles et toutes ses œuvres doivent être soumises à la volonté du Christ. Satisfaction ici-bas et récompense éternelle dans l'au-delà, pour être heureux, nous devons nous efforcer de reproduire le caractère que le Christ a manifesté. L'une des caractéristiques du Sauveur était son abnégation et sa bienveillance. Il n'est pas venu chercher ce qui lui était propre. Il allait partout, faisant le bien. C'était sa nourriture et son breuvage. En suivant son exemple, nous pouvons être en communion avec lui, et en cherchant chaque jour à imiter son caractère, nous serons en bénédiction au monde. Nous jouirons ici-bas du contentement, en attendant une récompense éternelle dans l'au-delà. Chapitre 42. Les récompenses présentes et éternelles. Le service apporte la récompense. La grande récompense finale ne sera donnée qu'à la venue du Christ. Cependant, un service désintéressé pour le Seigneur apporte une récompense même dans cette vie. S'approcher plus près de Jésus. Quand vous secourez les pauvres, quand vous sympathisez avec les affligés et les opprimés, quand vous prenez soin des orphelins, vous vous approchez plus près de Jésus. La promesse d'une expérience plus riche. En pratiquant les principes de l'amour que le Christ a enseigné par le précepte et par l'exemple, vous ferez une expérience semblable à la sienne. En ouvrant votre porte aux nécessiteux et à ceux qui souffrent, vous accueillez des anges invisibles. Vous invitez des êtres célestes, qui apportent avec eux une atmosphère de joie et de paix. Ils entrent avec des louanges sur les lèvres, et une douce mélodie leur fait écho dans le ciel. Tout acte de miséricorde est salué par une musique céleste. Éprouvez un grand contentement. Un grand travail reste à faire. Tout ce qui s'accomplit doit élever l'humanité. Il en est tant qui ont besoin d'aide. Le cœur de celui qui vit, non pour se complaire en lui-même, mais pour être en bénédiction à ceux qui en reçoivent peu, éprouvera un grand réconfort. Que tous les paresseux se réveillent pour faire face aux réalités de la vie. Prenez la parole de Dieu et sondez ses pages. Si vous pratiquez cette parole, la vie sera vraiment une vivante réalité, et vous trouverez que la récompense est grande. Les problèmes difficiles seront résolus. Si vous attendez du Seigneur une conversion journalière, si de vous-même vous aspirez à la liberté et à la joie qui résident en Dieu, si, répondant à l'appel de sa grâce, vous acceptez de porter le joug de l'obéissance et du service, alors tous vos murmures cesseront, vos difficultés seront aplanies et les problèmes angoissants qui vous tourmentaient trouveront leur solution. Souvent payés avec la monnaie du royaume. La règle d'or rejoint ici la même vérité enseignée dans le sermon sur la montagne. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Tout ce que nous faisons à autrui, soit en bien, soit en mal, rejaillira inévitablement sur nous en bénédiction ou en malédiction. Nous retrouverons tout ce que nous donnons. Les biens terrestres que nous partageons avec nos semblables nous sont même souvent rendus sous une forme tangible. Nous recevrons fréquemment dans un moment difficile bien plus que le quadruple de ce que nous avons donné. Mais si nous sommes, dès ici-bas, récompensés de nos bienfaits, c'est surtout par le sentiment toujours plus intime et profond de l'amour de Dieu, qui réunit en lui toutes les gloires et tous les trésors du ciel. Dieu récompensera. Il y a au ciel un livre où sont enregistrées les actions de ceux qui s'intéressent aux besoins de leurs semblables. Un livre qui sera ouvert au dernier jour, lorsque chacun sera jugé selon ce qui y est écrit. Alors Dieu punira tous les actes d'injustice dont les pauvres ont été victimes. Ceux qui manifestent de l'indifférence ou du mépris pour les malheureux ne doivent pas s'attendre à recevoir la bénédiction de celui qui a déclaré « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Toutes les bonnes actions récompensées, Dieu n'a pas été inattentif aux bonnes œuvres et aux renoncements de l'Église dans le passé. Tout est inscrit là-haut. Notre fidélité et notre désintéressement seront inscrits par les anges dans les registres du ciel. Les anges ont pour mission de nous venir en aide. Ils volent entre la terre et le ciel et enregistrent les actions des enfants des hommes. Le registre du ciel ne sera jamais détruit. Tout acte d'amour, toute parole aimable, toute prière en faveur de ceux qui souffrent ou qui sont opprimés est rapportée devant le trône éternel et enregistrée dans le livre indestructible du ciel. Il serait bon qu'ils se souviennent du livre du ciel où tout est enregistré, de ce livre où il n'y a ni omission ni erreur et par lequel nous serons jugés au dernier jour. Là sont mentionnées toutes les occasions perdues. Mais là aussi sont inscrits tous les actes de foi et d'amour dont le souvenir est immortel. Récompensés pour l'œuvre de la bienfaisance, les enfants de Dieu qui ont manifesté une tendre pitié pour les pauvres, les orphelins, les opprimés et les affligés, recevront la plus belle récompense. Il en est autour de nous qui ont un esprit de douceur et d'humilité, l'esprit du Christ, qui accomplissent de petites choses pour venir en aide à ceux qu'ils côtoient, et qui trouvent cela tout naturel. Ils seront étonnés un jour d'apprendre que le Christ a pris note des bonnes paroles qu'ils ont adressées aux découragés, ainsi que du plus petit don offert pour soulager les pauvres. Dieu prend note des actes de bonté. Tout acte de justice, de miséricorde et de bienfaisance produit une mélodie dans le ciel. Du haut de son trône, le Père contemple ceux qui accomplissent ses actes de miséricorde et les met au nombre de ses plus précieux trésors. « Ils seront à moi, mon trésor particulier, dit l'Éternel des armées, au jour que je ferai. » Darby. Tout acte de miséricorde en faveur des nécessiteux et de ceux qui souffrent est considéré comme s'il était fait pour Jésus. Récompensé pour de petites choses généralement dédaignées, au jour du jugement, ceux qui ont accompli fidèlement leurs tâches quotidiennes et qui s'en sont acquittés promptement, sans en attendre des louanges et des profits, entendront ces paroles. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Le Christ ne les loue pas à cause de leurs sermons éloquents, de la grande puissance intellectuelle qu'ils ont déployée ou de leur générosité. Il les récompense pour les petites choses, généralement négligées. Lorsque le cas de tous sera examiné devant Dieu, on ne demandera pas « Qu'ont-ils professé ?» Mais bien, « Qu'ont-ils fait ? » Ont-ils été des observateurs de la parole ? Ont-ils vécu pour eux-mêmes ou exercé la bienfaisance par des actes de bonté et d'amour, préférant les autres à eux-mêmes, renonçant à leur moi afin de pouvoir être en bénédiction à leur prochain ? Si les registres du ciel révèlent que telle a été leur vie, que leur caractère a été façonné par la tendresse, l'abnégation et la bienveillance, ils recevront la bénédiction du Christ. Cela va bien. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le bon mobile est essentiel. Ce sont nos mobiles qui donnent à nos actes leur véritable valeur, les marquant au coin de l'ignominie ou leur conférant la plus haute dignité morale. Les grandes choses que tous les yeux voient et que toutes les langues célèbrent ne sont pas les plus précieuses au regard de Dieu. De petits devoirs joyeusement accomplis, de modestes dons faits sans vanité, bien qu'insignifiants aux yeux des hommes, ont souvent la plus haute valeur aux yeux de Dieu. Le Seigneur préfère un cœur plein de foi et d'amour au don le plus précieux. Jugez par nos mobiles. Examinez les actions du jour écoulé. Se demander si notre conscience les approuve ou les condamne est nécessaire pour tous ceux qui veulent atteindre la perfection d'un caractère chrétien. On s'aperçoit ainsi que le mobile de ce qui a été considéré comme une bonne œuvre, comme un acte charitable, n'était pas toujours sans reproche. On applaudit chez beaucoup de gens des qualités qu'ils ne possèdent pas. Celui qui sonde les cœurs pèse les intentions, et souvent il voit que des actions hautement approuvées par les hommes sont issues de l'égoïsme et de l'hypocrisie. Chacun de nos actes, même excellent et digne de louange, exempt de blâme, est jugé par celui qui sonde les cœurs suivant les mobiles qui l'ont provoqué. Les deux rames, la foi et les œuvres. Si nous sommes fidèles en faisant notre part, en collaborant avec lui, Dieu se servira de nous pour accomplir sa volonté. Mais il ne peut nous employer si nous ne faisons aucun effort. Si nous voulons obtenir la vie éternelle, nous devons travailler, et travailler sérieusement. Ne nous laissons pas séduire par l'assertion souvent répétée « Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire ». La foi et les œuvres sont deux rames que nous devons également manier, si nous voulons ne pas être entraînés par le courant de l'incrédulité. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Le chrétien est un homme qui pense et qui pratique. Sa foi plonge fortement ses racines en Christ. C'est par la foi et par les œuvres qu'il conserve le niveau de sa spiritualité. Sa force augmente quand il s'efforce d'accomplir les œuvres de Dieu.
Notre couronne peut être brillante ou obscure. Bien que nous n'ayons aucun mérite par nous-mêmes, dans sa grande bonté et son grand amour, Dieu nous récompense comme si nous méritions quelque chose. Lorsque nous avons accompli tout le bien possible, nous sommes encore des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que notre devoir, par la grâce du Christ, et nous ne méritons aucune récompense. Mais, par les mérites de notre Sauveur, toutes les promesses de Dieu se réaliseront et chacun recevra selon ses œuvres. Les précieuses récompenses du monde futur seront en proportion de notre foi, de notre travail et de notre amour dans la vie présente. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Nous devrions être plus reconnaissants pour la miséricorde infinie du Seigneur qui nous permet de semer en vue de la moisson future et considérer sérieusement ce que sera cette moisson. Que notre couronne soit brillante ou terne, cela dépend de notre conduite. Nous pouvons assurer notre élection et entrer en possession d'un riche héritage, ou bien nous priver nous-mêmes de ce poids éternel de gloire. Rencontrer ceux qui seront sauvés par nos efforts. Lorsque les rachetés se tiendront devant Dieu, des âmes précieuses répondront à l'appel de leur nom parce que de fidèles et patients efforts ont été faits en leur faveur. C'est grâce à ceux-ci qu'elles ont été persuadées de se réfugier dans la forteresse. Ainsi, ceux qui, en ce monde, ont été ouvriers avec Dieu, recevront leur récompense. Les rachetés se retrouveront et reconnaîtront ceux qui ont attiré leur attention sur le Sauveur. Quelle conversation bénie auront ces âmes ? Nous étions des pécheurs, diront-elles, sans Dieu et sans espérance dans le monde. Vous êtes venus vers nous, vous avez attiré notre attention sur le Christ, notre seule espérance. D'autres exprimeront leur gratitude à ceux qui ont nourri les affamés et vêtu ceux qui étaient nus. Lorsque le désespoir poussait notre âme à l'incrédulité, diront-ils, le Seigneur vous a envoyé vers nous pour nous parler d'espérance et de consolation. Vous nous avez donné des aliments pour notre corps et vous avez ouvert devant nous la parole de Dieu, réveillé nos perceptions spirituelles. Vous nous avez traités en frères, vous avez sympathisé avec nous dans notre tristesse et réconforté notre âme blessée. Nous avons pu ainsi saisir la main du Christ qui se tendait vers nous pour nous sauver. Dans notre ignorance, vous nous avez enseigné patiemment que nous avions un Père dans les cieux qui s'occupait de nous. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Lorsque les nations seront rassemblées devant Dieu, il n'y aura que deux classes de gens, et leur destinée éternelle sera déterminée par ce qu'ils ont fait ou ont négligé de faire pour lui dans la personne des pauvres et de ceux qui souffraient. En ce jour, le Christ ne présentera pas devant les hommes la grande œuvre qu'il a accomplie en donnant sa vie pour leur rédemption. Il présentera les bonnes œuvres qu'ils ont faites pour lui. À ceux qui sont à sa droite, il dira « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. »
mais ceux à qui Jésus s'adresse ne savent pas ce qu'ils ont fait pour lui. Devant leur perplexité, il répond « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ceux que le Christ accueille au jour du jugement peuvent n'avoir que très peu fait de théologie, mais ils ont connu les principes qu'il a enseignés. Grâce à l'influence de l'Esprit de Dieu, ils ont été en bénédiction à ceux qui les entouraient. Même parmi les païens, il en est qui ont cultivé la bonté. Avant d'avoir entendu l'Évangile, ils ont reçu les missionnaires au péril de leur vie. Parmi eux, certains adorent Dieu sans le connaître, la lumière ne leur ayant jamais été apportée par des instruments humains. Bien qu'ignorant la loi, telle qu'elle est écrite, ils ont entendu la voix divine parler dans la nature et ont accompli certaines choses que la loi exigeait. Leurs œuvres sont la preuve que le Saint-Esprit a touché leur cœur et ils sont reconnus comme enfants de Dieu. Quelle surprise et quelle joie éprouveront les humbles qui viendront de toutes les nations et même du paganisme quand ils entendront des lèvres du Sauveur. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Quel ne sera pas le bonheur de celui dont l'amour est infini quand ses disciples le regarderont avec surprise et avec joie en entendant ses paroles d'approbation ?